Lizzie présente Batman de Dathan Auerbach, lu par Xavier Percy. Pour Brian, 1987-2017. Nous donnons du sel à nos vies avec les péchés d'autrui. Nous trouvons à notre chair un goût délicieux. Ray Bradbury, La foire des ténèbres, 1962. Notre vie est une ligne que la nature nous ordonne de décrire à la surface de la terre, sans jamais pouvoir nous en écarter un instant. Nous naissons sans notre aveu. Baron d'Holbach, Système de la nature, 1770. Prologue. Un cadavre dans les bois. Au plus fort de la chaleur écrasante de l'été, en Floride du Nord, deux jeunes garçons découvrirent un cadavre au milieu d'une forêt où ils avaient pourtant promis de ne jamais s'aventurer. Les arbres, épais et impressionnants de hauteur, formaient un labyrinthe qui menaçait d'engloutir le promeneur égaré. Mais eux avaient appris à s'y orienter comme tous les garçons qui grandissent près d'un bois, en l'explorant de fond en comble jusqu'à connaître le moindre de ses recoins. Et même ce jour-là, ils en sortirent sains et saufs, quoique transformés. L'histoire qu'ils raconteraient par la suite à leurs parents serait un mensonge. Ils n'avaient pas vu le corps. En vérité, c'était le grand qui l'avait découvert. Non par accident, mais parce qu'il était en colère, en se défoulant de sa frustration envers le monde sur les arbres indulgents. Le plus jeune lui emboîtait le pas et observait ce spectacle aussi pur et enragé qu'une tempête. La règle était de garder ses distances en priant de ne pas se trouver sur sa trajectoire. Le grand arrachait des branches pour frapper les troncs, avant de les jeter aussi loin que sa force et la gravité le permettaient, avec rigueur et sérieux, presque avec méthode. Il shootait dans les feuilles mortes et les fourmilières tandis qu'il bavardait, gaiement et calmement. En ce jour précis du mois de juillet, ils étaient en train de débattre de la taille de soutien-gorge de leur jeune voisine quand le monde s'arrêta, ou plutôt vint buter sur l'extrémité d'une chaussure. Un bon coup de pied suffit à pulvériser une fourmilière. Quand elles sont très sèches, on a même l'impression de ne rien sentir. Un bruit mat, furtif, juste un peu de sable au bout de sa chaussure. Avec les fourmilières humides, c'est un peu différent. L'impact se répercute le long de la jambe jusqu'au genou. Il faut frapper plus fort, sans quoi vous ne retournez qu'un tas de terre. Et dans ce cas, à quoi bon ? Le grand avait shooté fort, bien assez pour passer au travers, mais sa jambe vibra comme une batte de baseball contre le bitume. C'est seulement quand le petit cria en tirant sur son t-shirt que le grand comprit la nature de l'obstacle qui venait d'arrêter son pied. Il n'avait pas shooté dans une fourmilière. Il resta planté là un bon moment, le bout de sa semelle contre un visage disloqué, avant que son copain réussisse à l'éloigner. Le grand reçut des coups de cravache, mais ce furent les parents du petit qui réagirent le plus mal. Leur colère fut seulement tempérée par une sorte de soulagement inavouable qui les submergeait d'une vague de boue à la pensée que leur fils était déjà hors de danger lorsqu'ils avaient eu connaissance des faits. Le garçon ne comprit jamais vraiment leur réaction. Il allait bien. Il ne s'était rien passé de grave. Mais ce n'était qu'un gamin. Il ne pouvait pas comprendre la peur viscérale qu'on éprouve quand on devient parent. La chair de votre chair se retrouve lâchée dans le monde et vous ne pouvez la protéger qu'au moyen de règles et de mises en garde bien trop faciles à ignorer. Les connexions nerveuses sont si longues qu'un message de détresse mettrait une éternité à vous parvenir. Et la douleur vous broie à la seule idée du pire. Les parents du petit lui en reparlèrent souvent, afin qu'il garde le souvenir de cette journée d'été toujours présent à l'esprit, comme s'il risquait de l'oublier ou de seulement vouloir ne plus s'en souvenir. Il devrait se montrer plus prudent à l'avenir. La prochaine fois, ce ne serait pas lui qui trouverait quelque chose, mais l'inverse. Leur ville, bien que petite, ne différait en rien des autres. Le puits d'anecdotes horrifiques y était aussi profond qu'ailleurs, et ils puisèrent dedans sans relâche pour lui raconter des histoires d'enfants qui vivaient très heureux jusqu'au jour où un grand malheur leur tombait dessus. « Tiens, et le gamin du vieux moulin à papier? Tu savais qu'il avait le même âge que toi? Il a grimpé par une fenêtre au carreau cassé à 7 ou 8 mètres de hauteur, puis il est tombé et s'est cassé les deux jambes. Il est resté là 2 jours entiers avant que quelqu'un le trouve enfin. Et la petite, qui n'est jamais redescendue du bus scolaire parce qu'elle n'y était jamais montée. Il paraît que sa mère est restée plantée à l'arrêt tout l'après-midi, persuadée qu'il devait y avoir une erreur. Mais le monde, il ne commet jamais d'erreur, tu m'entends? Son truc, c'est de piéger les imbéciles qui se croient plus forts que la malchance, quel que soit leur nom ou leur âge. Demande donc à ce pauvre gamin. Enfin, s'il était encore là. 3 ans à peine. Disparu, envolé, comme ça, d'un claquement de doigts. Le plus déconcertant pour les parents, plus encore que la mésaventure de leur fils, c'est que celui-ci ne semblait pas troubler le moins du monde par leur discours. Les enfants ne se laissent pas traumatiser si facilement. Ils décrètent leur propre immortalité. À mesure que les années passent, toutefois, ils prennent conscience qu'il leur en reste de moins en moins à vivre. Difficile de prévoir quand cette prise de conscience les frappera. Disons juste que le temps trouve toujours le moyen de se rappeler à leurs bons souvenirs. En regardant derrière soi, on mesure le chemin parcouru, mais on est bien obligé d'admettre un jour que l'horizon n'est pas illimité. On ne peut qu'espérer parcourir encore un peu de route avant que le sol ne se dérobe sous nos pas. La distance exacte est impossible à mesurer, mais elle s'amenuise à chaque instant. Les parents du petit décidèrent de faire entrer très tôt cette leçon dans la tête de leur fils, et leur stratégie fonctionna plus ou moins. Il continua à explorer le monde, mais en regardant un peu plus souvent par-dessus son épaule. Les deux amis retournèrent dans la forêt quelques mois plus tard. En chemin, ils discutèrent des histoires que les parents du petit lui avaient racontées, y ajoutant leurs propres théories, tandis que leurs pas s'imprimaient dans la terre boueuse. À l'approche de la clairière, ils en étaient à évoquer le gamin de 3 ans qui avait disparu. Une fois sur place, l'air se révéla aussi vide que la terre était nue. Ils fixèrent le sol, immobile et silencieux. Seule une légère trace révélait l'endroit où avait reposé le cadavre, comme un trou laissé dans la terre humide par un gros caillou qu'on a délogé. Ils savaient que la police l'avait emporté, on en avait même parlé aux infos. Mais aucun d'eux ne fit de commentaire, ni ne dit quoi que ce soit d'ailleurs. Pourtant, ils auraient dû continuer à en parler. Peu d'endroits sur Terre semblaient plus propices à l'évocation de cet enfant disparu. En réalité, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Les parents du petit lui avaient appris tout ce qu'ils savaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce dont ils se souvenaient, c'est que l'enfant s'était volatilisé sans laisser de traces, comme la fumée d'une cigarette. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il se prénommait Eric. Ils avaient pourtant vu les avis de recherche au fil des ans. Pour être exact, disons qu'ils étaient tombés dessus de temps à autre, mais sans y prêter plus d'attention que cela. Ils ignoraient le prénom de l'enfant parce qu'ils n'avaient pas vraiment lu l'affichette, comme tout le monde. Ils ignoraient également qu'Eric avait un grand frère, Ben, et qu'ils avaient déjà croisé ses 110 kilos à 2 reprises. La première fois, c'était dans une boutique d'artisanat, avec son petit frère. La seconde fois, quelques années plus tard, alors qu'il effectuait des recherches pour le retrouver. Ils auraient pu savoir que Ben recherchait son frère s'ils avaient pris la peine de s'arrêter lorsqu'il s'était avancé vers eux. Hélas, non. Ça n'aurait sans doute rien changé. Non pas parce qu'il ne savait rien, mais parce que Ben lui-même ignorait beaucoup de choses. Ce n'était pas sa faute, cela dit. Ben n'avait aucun moyen de savoir où il aurait dû arrêter ses recherches.